Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Salut, je m'appelle Joseph Chédid. Je suis très content d'être avec toi, Laurie, pour parler de l'exil. Alors moi, je suis née le 8 janvier 1986, à Neuilly-sur-Seine, à l'hôpital américain, de mon père Louis Chédid, qui est né en Égypte, qui a des origines libano-égyptiennes, et de ma mère, Marianne Chédid, qui est une Normande, française normande. Voilà. Moi, je suis musicien, je fais de la musique, et j'aime bien l'art en général, de toute façon, la culture, tout ça. C'est vrai qu'on est aussi... Je suis issu d'une famille d'artistes et de musiciens, donc... Voilà, on a été quand même sensibilisés à tout ça. C'est vrai que la musique, ça reste quand même le vecteur un peu principal, mais voilà, le cinéma, le dessin, la peinture, la photographie, enfin, voilà, moi, tout ça, ça me plaît. Ça fait partie aussi de mon univers. Et voilà, je suis un peu touche-à-tout, production, multi-instrumentiste, chant, écriture. Voilà, j'ai toujours bien aimé être un peu pluriel. D'où venait le nom Chédid ? Parce qu'on avait un ancêtre qui avait une énorme force. Il arrivait à attraper des ânes entre ses jambes en s'accrochant à un arbre, enfin, un truc qui apparaît complètement absurde. Et on l'appelait OS le fort, parce qu'on s'appelait OS à la base. H-O-E-S. Et après, OS El Chédid, il s'est fait appeler, parce que c'est le fort.
Mais non.
Voilà. Et donc Chédid vient de là, en fait. Il arrivait à presser des pièces avec ses mains, il arrivait à effacer les pièces avec la force de ses mains, quoi. Les dernières aventures orientales, c'est vraiment mes grands-parents qui ont été... qui sont cousins germains à la base, qui sont tombés amoureux, qui se retrouvaient en cachette dans le désert, en Égypte, en chevaux. Enfin, des histoires complètement romanesques, complètement incroyables, et qui ont eu un amour fou l'un pour l'autre, et... Et d'ailleurs, la mère de ma grand-mère Andrée, Alice Godel, elle a été élue une des plus belles femmes du monde à l'époque. Elle avait une espèce de grande beauté comme ça, orientale. Et elle a été... ça a été une des premières femmes à divorcer aussi, etc. Enfin, chose qui se faisait pas du tout là-bas. Donc, il y avait quand même un esprit assez moderne, assez... un courage aussi, quoi. C'était une femme forte qui avait... une vision et le courage d'aller au bout de... Donc, elle a aussi participé, d'une certaine manière, à ce combat aussi, quoi. Et mon père, il est arrivé tellement vite en France que, quelque part, il est vraiment... il a cette identité très française. Et je pense qu'il se sent plus français, en fait, vraiment. Malgré le fait qu'il soit né en Égypte, malgré le fait qu'il ait ses attaches. Mais je pense qu'il traversait l'Orient plus avec ses parents que lui, en fait, finalement. Je pense que lui, c'est vraiment... C'est... Je pense qu'il se sent français, quoi. Vraiment dans sa culture. le pont vraiment de tradition orientale, c'était mes grands-parents. Déjà, simplement, les entendre parler, tu vois. Ils roulaient les airs, ils avaient cette manière vraiment de parler, cet accent, quoi. Donc, voilà, ils venaient d'ailleurs. Tu pouvais l'entendre même quand tu parlais le français avec eux. D'ailleurs, c'était très beau, parce que justement, ça fait voyager aussi, ça. C'était des cosmopolites aussi, mes grands-parents. Ils étaient très, très ouverts sur plein de trucs, ouverts sur le monde, ils voyageaient. Donc, c'était pas que des orientaux, quoi. Il y avait ce côté Orient-Occident déjà, quoi. Mais voilà, ils étaient sensibles aux poètes de leur. De leur pays. Ils étaient sensibles à la poésie, à la philosophie. Orientale, quoi. À la musique orientale aussi. Je pense que, ouais, c'est vraiment le pont, quoi. Mon grand-père, lui, c'était le conteur d'histoires. Il adorait nous raconter les histoires de Selim aussi. Alors Selim, un de mes arrière-grands-pères, qui a acheté à l'époque des champs de coton qui coûtaient rien. Et puis, en fait, il y a eu une guerre. Et puis, d'un coup, les champs de coton... ont explosé, il est devenu l'homme le plus riche d'Égypte à ce moment-là. Enfin, bon, c'était un truc un peu dans le délire, quoi. Donc, il nous racontait comme ça d'où on venait, comme ça, au travers d'histoires, d'anecdotes. C'est marrant parce que c'est mon deuxième prénom, Selim aussi. Donc, en fait, tu vois, c'était là, quoi. Et moi, justement, à l'époque, je me sentais pas du tout de prendre mon nom de famille et tout, de faire de la musique dans ce contexte-là. J'étais pas du tout prêt pour ça. Et puis, surtout, ça résonnait pas, quoi. Pour moi, je t'ai dit, enfin, à cette époque-là, ça n'avait aucun sens. Et donc, finalement, ce deuxième prénom, Selim, je le trouvais très beau. Et en fait, ça a été ma première connexion avec ça, tu vois, avec mes racines, mais très inconsciemment, tu vois. Je savais même pas qui était Selim, tu vois, dans ma famille et tout. Et effectivement, par mon grand-père, je commençais à comprendre. Et puis, voilà, leur côté très romanesque, à eux deux, de se retrouver dans le désert, d'être... des amants comme ça, interdits. Enfin, tu vois, il y avait un côté Roméo et Juliette fou, tu vois. Je sais que la famille de mon grand-père, c'était... Ils pouvaient pas fumer une cigarette devant leurs parents, ils se prenaient une gifle à 40 piges, boum, ils se prenaient une gifle. Enfin, donc il y avait une espèce d'autorité qui était très, très forte. Et j'ai senti vraiment un grand décalage entre mon grand-père et moi, en termes de vision de la vie. Ça a été un choc générationnel quand même incroyable, quoi. Moi, j'ai vraiment ce côté un peu, cette douceur, ce truc presque un peu féminin et tout ça. Lui, il était très gentil, mais c'était pas du tout la même chose, quoi. Il fallait... Ce côté tactile et tout, c'était pas son trip, quoi. Il était pas là-dedans. C'est fou. Entre la vingtaine et la trentaine, il y a un moment où d'un coup, tu commences à aller vers ta vie un peu... voler de tes propres ailes, t'es plus chez tes parents, t'es plus... Tu vois, tu commences à devenir un adulte et t'as cette période qui est tellement... déroutante, tellement un peu violente aussi presque, et tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire en fait, enfin t'as l'impression qu'il faut assumer ta vie maintenant par toi-même, c'est un peu surtout dans ce monde avec toutes ces problématiques etc. Et donc forcément tu commences à te demander d'où tu viens aussi pour essayer de tu prends le fil quoi, tu rattrapes le fil pour qu'on te... qui n'a pas d'origine quoi quand il pense. Là, mon fils, par exemple, il a des origines américaines, orientales, libanaises, égyptiennes, normandes, vosgiennes. Il est maya, il est... Enfin, c'est fou, quoi. Je me dis... on est des êtres humains, en fait. Notre ADN, on vient de partout. L'exil, c'est aussi... effectivement, c'est le voyage, quoi. L'exil, c'est le mouvement, en fait. C'est que on bouge, on migre, on change, on évolue dans notre vie. Et c'est un peu la métaphore de la transformation, de l'évolution, du mouvement, quoi.
Est-ce que tu penses que ta curiosité, ton éveil, ton côté touche-à-tout artistique peut venir justement du fait que tu as une pluralité d'origine, de culture ?
C'est marrant parce que j'ai jamais pensé à ça. C'est étrange, hein. Je pense que, oui, c'est aussi une des raisons du fait de faire plein de choses différentes. Il y a aussi cet héritage d'autonomie. Ma grand-mère, je pense à ma grand-mère qui pouvait passer des mois entiers à écrire, à être concentré sur son truc, entre guillemets, sans personne, vraiment dans son truc, construire son idée, son autonomie. Je pense qu'elle nous a probablement transmis cette manière de pouvoir, moi par exemple, d'être depuis 2 ans sur mon album et de continuer à avancer, à le façonner, à le terminer. Alors qu'il y a des gens qui vont dire « Mais non, mais 2 ans, là, t'es fou. » Ou tout simplement pas « T'es fou, mais moi, je pourrais jamais faire ça, un album pendant 2 ans. C'est trop long, c'est trop... » Ça fait partie aussi d'un héritage, j'ai l'impression. Et effectivement, peut-être aussi que ça aide à sortir de la vision unique des choses, quoi. Parce que c'est dangereux, parfois, de voir les choses d'une manière. Alors, c'est bien d'avoir des visions et une vision précise de certaines choses, mais... Je trouve que parfois, c'est très dangereux aussi d'avoir une vision, parce que si on voit les choses d'une certaine manière, bah, on s'empêche de la voir de plein d'autres manières. Et parfois, il faut faire attention à ne pas être trop unique dans sa manière de penser. Et le fait d'avoir plusieurs cultures, bah, forcément, ça ouvre l'esprit. Parce que c'est des... Et d'ailleurs, on le voit quand on part, par exemple, dans les concerts, ou en tout cas, quand on va à l'extérieur, disons, bah, on est confronté au regard des autres, aux manières de penser différentes. Et c'est vrai que c'est enrichissant, quoi. Ma grand-mère, elle a vraiment ce côté penseuse, philosophe, quoi, et musicienne aussi dans les mots. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est de voir ma grand-mère à quel point elle aimait la musique et elle en a fait avec les mots. Et ça, c'est... Elle n'avait pas la guitare, le piano, les trucs. Et donc, elle a mis son énergie musicale dans les mots et elle a créé de la musique avec les mots, quoi. Et ça, c'est un art phénoménal. Pour moi, ma grand-mère, c'est une artiste, c'est une immense artiste. D'ailleurs, elle a une multitude d'écoles à son nom. Elle est étudiée à l'école depuis que moi, je suis enfant, jusqu'encore maintenant, le bac, le truc, le machin. Donc, elle est présente. Et ce qui est beau, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, ça perdure, quoi. Ça perdure et ça se transmet. Et elle s'immisce dans la vie des gens encore aujourd'hui. Et elle était aussi très prise par sa vie artistique. Donc, finalement, on n'a pas... passer notre vie ensemble non plus. Mais voilà, on a sa lecture, on a aussi... Et puis on a évidemment des moments de complicité ensemble. C'est puissant et c'est fort, quoi. Et puis tu sens qu'il y a du vécu là-dedans et que c'est aussi une génération qui a traversé plus la guerre, qui sait parler de ça, et tu sens que quand ils en parlent, c'est du vécu, quoi. Moi, je trouve que justement, c'est marrant parce que c'est sa poésie, et notamment Rythme, là, son recueil de poésie Rythme, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui me fait penser parfois quand je lis justement un peu les moines bouddhistes ou les trucs comme ça, tu vois. Vraiment, territoire du souffle, le chant, le souffle. Tu sens qu'elle est aussi connectée à cette essence, au présent. Elle a presque fait fusionner la philosophie avec la poésie orientale, quoi.
Et tu sens dans ta musique que ta culture orientale, elle s'exprime ?
Je le conscientise pas. Enfin, si, je le conscientise peut-être un peu, en fait. Peut-être un peu plus que ce... Je cherche pas à l'afficher. Je cherche pas à le cacher. Je veux juste qu'il s'exprime de la manière dont il a besoin de s'exprimer. Mais dans mon nouvel album, là, le personnage, dans le texte, justement, je dis, le dit oriental, parce que je le présente, je dis le dit oriental occidentalisé. Donc il y a quand même cette notion de l'oriental qui s'est occidentalisé, quoi. Et je dis traverser plusieurs identités. Donc il y a cette notion de... Ouais, de cheminement, de qui on est. Mais je crois que plus le temps avance et plus je me sens... Ça transcende mes origines, quoi. Je me sens vietnamien, je me sens brésilien, je me sens humain, quoi, en fait. Je me sens plus oriental ou égyptien, français ou libanais, quoi. Mais c'est mes origines. Je suis allée en Égypte dans mon enfance. J'ai des souvenirs assez lointains, mais justement de quelque chose de très exotique, quoi, de très nouveau. C'était pas pareil, quoi, que ma vie parisienne, quoi, disons. Ça n'avait rien à voir. Puis après, on est allé au Liban aussi. On a eu la chance de faire un concert à Baalbek aussi. Ça a été vraiment inouï comme expérience. Parce que les ruines de Baalbek, c'est waouh, c'est quand je suis arrivé là-dedans, j'avais l'impression de vraiment, il y avait un truc, une énergie, une force, et d'un coup, pendant une seconde, c'est comme si il y avait une espèce de, comme si j'avais mis un casque de réalité augmentée et je voyais des milliers de personnes autour de moi en train de porter des choses, en train j'étais ailleurs, quoi. J'ai vraiment ressenti comme si je m'étais connecté à l'énergie de ce lieu il y a des centaines d'années, et je me disais waouh, qu'est-ce qui se passe. Puis de jouer là-bas dans cet endroit majestueux, incroyable pour des Libanais, de sentir aussi ce qui est incroyable là, c'est vraiment ce truc de connexion. C'est-à-dire que tu sens que, par contre, il y a un langage commun. T'arrives là-bas, tu te reconnais. Vraiment. Mais c'est pas juste genre, oh, c'est marrant, on se ressemble un peu, parce qu'il y a un truc physique aussi. Mais il y a un truc dans l'esprit. Et dans ces moments-là, tu te rends compte que t'es plus Libanais que ce que tu pensais. Et c'est comme les gènes, quoi. Tu peux rien faire, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Il y a un truc intellectuel au Liban aussi. C'est des intellectuels, c'est vraiment des gens qui sont assez savants, quoi, dans leur manière de penser, de discuter, qui ont des points de vue politiques. Mais tu sens que c'est pas juste pour ou contre, quoi. C'est plus subtil que ça, quoi. Il y a un truc, ils sont dedans, quoi. Et puis aussi, tu vois que le Liban, c'est quand même, tu vois, c'est un pays qui est en guerre, quoi, qui est en guerre depuis très longtemps maintenant, et qui... C'est pas du tout la même énergie, quoi, aussi. Et ça, c'est vrai que je me sens lié à ça, ça me connecte. En fait, c'est des gens qui m'approfondissent parce que quand je suis avec eux.
Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit. Poussait en bataille sur le sol du pays, et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.